Salut les amis.
Salut Charlie.
Aujourd'hui on reçoit Eric et Quentin.
Oh, génial.
Et vous savez, ils font des sketchs pour l'émission quotidienne.
Ouais, ils font le même boulot que nous en fait.
Ouais, sauf que là ils viennent pour un film.
Un film.
Et nous on est toujours là à faire nos sketchs.
Vous avez qu'à faire un film.
Oui.
Mais on parlerait de quoi?
Bah vous avez qu'à parler de la vie au bureau.
Ah mais c'est bien ça. Il y a plus qu'à trouver un réalisateur. On est bon là.
Ça serait super. Ça pouvait être Tarantino.
Ouais. Hello les amis.
Hey Charline, comment va?
Bah ça flingue. Alex, tu as des brèves?
Les voilà meuf.
Attention!
Bon, je vous laisse, je pars sur le terrain.
Coupé!
C'est pas bon ça.
Non, faut un autre réalisateur.
Ok, vous avez raison. Il nous faut un truc belge parce que ça nous correspond. Plutôt peut-être les frères d'Ardennes.
Salut les amis.
Ça va pas, Charline?
Si, ça va. L'amputation s'est plutôt bien passée. Ah. Alex, t'as des brèves?
Oui, dans le nord, il y a une femme qui a noyé ses 3 enfants et son teckel.
C'est triste. Ce pauvre teckel.
Bon, je vais sur le terrain. Je prends une corde, on sait jamais s'il y a un bel arbre. Adieu.
Coupé!
C'est pas bon, mais c'est encore pire.
Non, faut encore un autre réalisateur, peut-être un français.
Bon, ok, alors moi en français, j'adore Robert Guédiguian.
Bonjour les copains!
Oh Charlie, comment va?
Bon,
les brèves, j'ai une histoire exceptionnelle qui s'est passée à la Belle de Mai.
Je vous laisse, je pars dans la garrigue.
C'est mauvais, vous êtes ridicule.
Peut-être que vous devriez pas faire de film.
Mais pourtant, on était bien dedans.
J'étais à fond.
Vraiment, vous êtes mieux en radio.
Si c'est comme ça, je vais pas sur le terrain, puis c'est tout.
Alex, t'as des brèves?
Non.
Retour à la réalité, quoi, merde. Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Je vous ai réveillé. Vous écoutez l'émission qui convoque le bureau politique de l'actualité et voici les 3 informations qui vont se faire lourder avant 18h. Suite à un vaste plan social à l'Assemblée, 352 députés sortants sont à la recherche d'un emploi.
Fini la petite auto. Fini les vacances au crottoir. Fini le tiercé.
51 départements sont placés en vigilance canicule. Est-ce que nous avons tiré les leçons de 2003? Est-ce que vous avez pris des nouvelles de Mémé?
Pensez-vous? Vous êtes en pleine forme. Je mourrai avant vous.
J'espère bien.
La presse s'intéresse enfin à un enjeu citoyen. Quand faut-il changer sa serviette de bain? Sachant que les bactéries se développent dans l'humidité, osons cette question, mais bon sang, quand changer sa serviette de bain?
Le changement, j'y suis prêt. Le changement, c'est maintenant.
Et moi je suis accompagnée de celui qui se sèche de manière naturelle à la simple écoute d'un discours d'Emmanuel Macron. C'est Alex Vizorek.
Bonjour Charlie Benoît-Naker. Et attention, aujourd'hui, belle équipe autour de la table. À 17h20, sa technique de séduction est très simple. Il regarde une femme et lui dit: tu sais que tu as une très belle voix. Et elle ne se rend même pas compte qu'elle ne lui avait pas encore parlé. C'est André Manoukian, bonjour.
Démasqué, bonjour. Il fait Alex, même quoi aux hommes?
Ça a marché là, d'ailleurs.
On va parler d'un très beau projet. On avait reçu la semaine dernière Émilie Loiseau. C'est pour cette opération sur le parvis de la Rotonde à Paris pour la Journée nationale des réfugiés, Origami. Et on va écouter surtout un mec qu'on adore ici, Babix, avec Archie Shep, un grand jazzman.
Très bien, 17h30, sa technique de séduction à lui est très simple. C'est: il paraît que tu es de gauche, et puis il l'invite à manger du quinoa et la contredit toute la soirée. C'est Guillaume Meurice.
Vous avez tout révélé. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Moi je suis allé une dernière fois interviewer Jacques Millard. C'est mon député préféré, il a été battu. Et il a un avis sur la situation du gouvernement Macron.
À mon avis, ça branle déjà dans le manche.
Il va manquer. Il va manquer.
Et enfin, à 17h40, sa technique de séduction à elle est imparable et extrêmement rare chez une femme. Il lui suffit de parler. C'est Isabelle Sorande, bonjour.
Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour les copains.
De quoi vous allez nous parler?
Je vais vous parler de trottinette aujourd'hui.
Voilà.
Des sujets d'enfant.
Ça manquait.
Ça et les serviettes de bain. C'est des gros sujets. Et voici ceux qui ont tout annulé pour nous. Vous démarrez comme auteur du SAV d'Omar et Fred sur Canal+. En 2009, vous intégrez l'équipe du Petit Journal de Yann Barthès. Et l'an dernier, vous quittez Canal et suivez Barthès dans Quotidien sur TMC, où vous proposez un sketch quotidien. Et c'est tous les jours à 19h20 sur TMC Quotidien. Vous êtes...
Éric et Quentin.
J'ai reconnu.
On a gagné 10 000 euros.
Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes... J'annule tout.
Vous gagnez la valise France Inter.
Ça fait surprise.
Eric et Quentin, bienvenue.
Ben merci, merci de nous avoir invités.
Eh ben avec grand plaisir. Et aujourd'hui, vous venez parce que il y a votre film sort. Vous êtes scénariste du film Bad Buzz de Stéphane Kazandjian, c'est ça ?
C'est ça.
Qui sort en salle demain, avec notamment aussi Bérangère Krief, Razan Jamal ou Marianne Chazelle, Mathieu Delormeau et Fabien Le Goualec.
Tout à fait. Mmh. Et Paco aussi, Fanias.
Et Paco.
Paco Fanias.
Alors, moi, je l'ai vu, j'ai beaucoup ri. Mais d'abord, vraiment une question tout à fait opportuniste. Comment on fait pour passer de petits sketchs comme ça au cinéma? Parce que nous, ça nous intéresse à mort, quoi.
Eh bien, on travaille.
Voilà, c'est ça, évidemment.
Merde, c'est pas pour nous.
Non, non, ça a été très, très long. Et puis, il faut tomber sur quelqu'un qui vous fait confiance, en l'occurrence, un producteur. Donc, ça a été un long travail de 2 ans environ.
Il ne faut pas prendre de vacances parce qu'il faut tourner l'été, comme on a fait l'année dernière.
Il a fallu s'accrocher, on ne vous cache pas.
On n'est plus pris de vacances depuis 2 ans, du coup.
Oui, c'est vrai.
Non, presque. On attend l'été, là. Vraiment, on ne vous le cache pas. Hein.
Donc, ce scénario Bad Buzz, pitchez-le nous, ou je le fais.
Bon, allez-y.
Non, c'est un couple de
vous allez d'animateurs. Vous allez le résumer.
Je le résume, bien entendu. Jacques Toubon est avec nous. c'est un couple d'animateurs un peu comme vous, sauf que vous avez un public plutôt plus jeune.
Voilà, pour les enfants.
Voilà, ça marche très bien, ça cartonne tout à fait comme vous. Et puis là, vous allez dans une soirée.
Comme nous.
Vous trébuchez.
comme nous.
Sauf que.
Soirée échangiste néo-nazi. la photo est prise, c'est trop tard.
Terrible bad buzz.
Et là, il faut courir derrière le good buzz.
Exactement. Un bon buzz remplace toujours un mauvais bad buzz.
Est-ce que cette espèce d'angoisse de, sur un moment, faire écrouler tout ce qu'on a créé, bah vous l'avez aussi ?
Oui, mais je pense que tout le monde. Hein. Je pense que les hommes politiques, les gens des médias, tout le monde. Maintenant, c'est un drame. Un bad buzz, ça va tellement vite que ça peut ruiner une carrière, mais une vie personnelle aussi.
Non, puis c'est les mots qu'on entend le plus ces derniers mois, j'ai l'impression.
Regardez Fillon.
Ou le mot, je sais pas.
Non, mais autant regardez Fillon, hein, quand même. C'est... Ouais.
Et vous êtes passé pas loin de ça ou pas de cet exact
non, je pense pas. Non, j'espère pas. Une fois, on a fait l'amour avec Quentin, mais on a effacé les photos, donc on s'en sort.
Je voulais savoir comment on bosse alors quand on est deux et qu'on doit passer, parce que quand c'est un sketch, il y en a un qui a l'idée, puis on se dit, on l'écrit, ça prend 3 minutes. Quand il faut passer sur 1h20, c'est une autre paire de manches.
Faut un fil rouge. Au début, on n'avait pas du tout de thème principal. Effectivement, ça ressemblait à un assemblage de sketchs, mais ça fonctionnait pas. On a trouvé ce fil rouge du bad buzz et c'est ça qui fait le lien, je sais pas, pour le film.
Je vais dire le lien, Quentin.
Le lien, ouais.
Non, mais en fait, après, on se renvoie le texte. C'est un peu comme pour les sketchs, mais en plus long. C'est bête à dire, mais après, on se renvoie le sketch tout le temps. De toute façon, on est tout le temps côte à côte. Donc, c'est simple. On parle, on regarde, on lit ensemble ce qui nous fait rire ou pas, on rédige ensuite. Donc, ça n'a pas été trop compliqué. Ce qui était effectivement plus compliqué, c'est de trouver un axe, une narration pour pas que ça fasse sketch et qu'il y ait une vraie histoire avec des personnages au début et ce qui se passe à la fin, vraiment.
Et puis, avant de tourner, il faut être bien sûr de ses scènes, on va dire. Il faut qu'elles soient bien rédigées, bien écrites.
Il
ne
faut pas improviser comme
pour
se faire pour un sketch.
Mmh. Ah ouais, vous improvisez ?
Non.
il faut écrire d'excellents second rôles. Est-ce que vous avez fait Marianne Chazelle exceptionnelle?
On est très contente.
Double second rôle.
Ouais. Alors merci d'avoir accepté encore parce que elle accepte pas tout.
On dit pas.
Non, on dit pas. C'est un peu la surprise dans le film.
Une belle surprise, André.
Il y a une technique avec l'improvisation. Il y a un mec qui était très fort, c'était Larry King qui avec Curb Your Enthusiasm, qui prévoyait des situations complètement dingues à l'intérieur.
C'est Larry David.
Larry David, c'est ça. Pardon, Larry King.
C'est le présentateur.
Très rarement, il y a quelqu'un qui le récupère.
Oui, il s'appelle Larry. Et donc, l'idée, c'était que la situation est là et à l'intérieur, les gens improvisent. Est-ce que vous servez de ce ressort aussi, vous ?
Je pense, honnêtement, on n'a pas le talent pour faire ça. On a besoin d'une base narrative et d'écrire nos textes. Tous les matins, on écrit pour Quotidien. Et exactement pour le scénario, le producteur a été intraitable là-dessus. Tout était écrit. Il n'y avait pas de place, justement, à l'improvisation. Et il a eu raison. Parce que, mine de rien, c'est une pression aussi, le cinéma. On se retrouve face à une équipe. C'est pas aussi évident. Donc, il valait mieux avoir une base écrite et être sûr de nous sur ça.
Vous n'êtes pas très jazzman, alors, sur le principe ?
Bon, ça va, vous cherchez quoi ?
André, c'est une agression, c'est ça, on
dirait. On est incapable d'improviser.
Bienvenue, Eric et Quentin. Votre film, donc, Bad Buzz, dont vous êtes scénariste, est réalisé par Stéphane Kazandjian. Il sort en salle demain.
En salle climatisée.
Exactement.
Ouais. Va voir le salle climatisée, c'est que pour notre film.
Film.
Non, mais c'est quand on a signé au départ, c'est ce qu'on a demandé.
On va avoir l'occasion d'en parler avec notre sujet canicule, bien sûr. Allez, ils sont avec nous avant de filer à Quotidien.
que tu aimes. C'est assez beau, non? C'est le requiem pour un con. Ouais, je l'ai composé spécialement pour toi, à ta mémoire de Célia. C'est un joli thème, tu ne trouves pas, hein? Semblable à toi-même.
Requiem pour qui vous voulez, que vous n'aimez pas. Serge Gainsbourg, vous êtes sur France Inter et nous sommes en compagnie d'Éric et Quentin, dont
Coucou.
Le film sort demain en salle. Et pour les accompagner, Alex.
Bien que les meilleurs, André Manoukian, bien évidemment, Guillaume Meurice et Isabelle Sorrente.
Et puis, ce flash d'information très spécial.
Vous attendez.
Crochez-vous, vous allez prendre une leçon.
Attention.
Hein, ça va être chaud.
Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train.
Vous mentez. Le journal de presque 17h17.
Ça vous reprend. C'est un mensonge.
Et on commence par les titres.
La ministre des Armées, Sylvie Goulard, a quitté le gouvernement.
Oui, Éric Zemmour a immédiatement déclaré « Bah voilà, l'armée, c'est pas un truc pour les gonzesses.
» Jean-Marie Le Pen a demandé la démission de Marine Le Pen du Front National.
Oui, c'est fou quand même d'attendre le jour de ses 89 ans pour découvrir les vertus de la contraception.
Et bien sûr, Éric et Quentin, rien que pour vous, il y aura des brèves.
Il y aura des brèves. Ils sont deux brèves. Paf, y a rien à dire.
Et donc Sylvie Goulard, la ministre des Armées, a donc demandé à ne pas faire partie du prochain gouvernement.
Vous imaginez l'océan d'incompréhension dans lequel est plongé Jean-Vincent Placé. L'annonce de « je ne veux pas y aller ».
Richard Ferrand devrait lui aussi quitter son poste de ministre pour prendre la tête du groupe La République En Marche.
Mais là, attention, ça n'arrive qu'en politique, ne faites pas ça chez vous. Si vous êtes une caissière, ne tapez pas dans la caisse en pensant que vous serez promu chef de rayon. Ça n'arrive pas.
Gouvernement toujours, Édouard Philippe a fait savoir que LR lui prélevait toujours sa cotisation mensuelle.
Ah bah oui, donc bref, alors que François Fillon n'a toujours pas rendu l'argent, Édouard Philippe continue à donner le sien, c'est beau.
Passons à l'Assemblée où c'était la rentrée pour les nouveaux élèves.
À commencer par le petit Jean-Luc. Jean-Luc Mélenchon, il en a profité pour parler de ses nouveaux petits camarades, et notamment de Cédric Villani.
Il y a beaucoup de des chercheurs, des intellectuels, je sais pas quoi, j'ai vu le matheux là. Je vais lui expliquer ce que c'est qu'un contrat de travail, il va trouver par terre. Il sait pas ce qu'il y a dedans.
Il est remonté, pas pris de vacances non plus, mais il est remonté. Le matheux, donc, qui lui a répondu sur Twitter.
Cher Jean-Luc Mélenchon, directeur de l'IHP, j'en ai vu des contrats de travail, mais c'est toujours un plaisir de recevoir des cours particuliers.
Voilà, ça nous promet une belle ambiance pendant 5 ans, Palais Bourbon.
Côté Front National, oui. Jean-Marie Le Pen a été empêché d'accéder au siège du FN pour une réunion.
Ça, par cette canicule, c'est pas très gentil. Empêcher une vieille personne de se réfugier dans un immeuble climatisé. Il en a donc profité pour s'exprimer sur le bord de la route.
Sachant le poids qu'il faut attacher aux promesses de Madame Le Pen, j'avais pensé que je pouvais aussi arriver, la porte étant ouverte. Mais je pense quand même que par cette délicatesse du cœur particulière que Marine Le Pen a tenu à me faire ce cadeau le jour de mon anniversaire. Madame Le Pen ne souhaite avoir autour d'elle que des courtisans.
Voilà, il est chaud bouillant. Hein. Voilà, là, je n'ai pas des...
un opposant.
Oui, c'est le meilleur opposant, mais quand même... Il a terminé par ceci, quand on lui a demandé pourquoi Marine Le Pen avait perdu la présidentielle.
Eh bien, la première, c'est l'exclusion du président. Sans parler du rôle personnel que Madame Le Pen a pu y jouer dans les derniers moments et sur lequel moi, par pudeur paternelle, je passerai.
Heureusement que tout ça était empreint de pudeur paternelle.
Revenons sur l'attentat manqué d'hier soir.
Oui, le terroriste fiché S qui a raté sa tentative sur les Champs-Élysées, eh bien, il possédait une autorisation de port d'armes car il pratiquait le tir sportif.
Ah oui, mais non, le tir sportif, ça va. C'est pas comme s'il pratiquait le tir radicalisé à la veuve. Hein.
Le Pass Navigo, oui. Cet abonnement mensuel au transport francilien, devrait encore augmenter pour la deuxième année consécutive.
Alors qu'en 2015, Valérie Pécresse...
Moi, je maintiendrai le Pass Navigo à 70 euros parce que je ne jouerai pas avec le pouvoir d'achat des franciliens.
Voilà, Valérie Pécresse, elle est aussi fiable que la ponctualité du RER, si.
En même temps, elle change souvent d'avis, Valoche.
Oui, elle a soutenu Mordicus Sarkozy, puis à fond, Juppé, et coûte que coûte, François Fillon.
Société, à présent, selon les dernières prévisions du Conseil d'orientation des retraites, le solde financier des pensions pourrait accuser un déficit d'environ 9 milliards d'euros en 2021.
Mais comme Macron a le cul bordé de nouilles, en ce moment, c'est la canicule.
La canicule, c'est vide, donc on attend encore les mesures fortes de ce gouvernement pour protéger les plus vulnérables, et en particulier les enfants.
À l'époque, avec une menace pareille, Roselyne Bachelot, elle a recommandé 95 millions de Mr Freeze et c'était réglé.
Et enfin des brèves.
Ah, les brèves, on y vient. Selon une étude, 7% des Américains pensent que le lait chocolaté est issu des vaches marrons.
C'est intéressant.
C'est intéressant, sachant que ouais, 47,5% des Américains ont voté pour Donald Trump. On cherche les 40,5% restants. En tout cas, 93% des Américains se demandent mais qui a eu l'idée de poser pour une étude la question « Le lait chocolaté est-il issu des vaches marrons ?»
Et la dernière.
Et la dernière, attention, c'est du lourd. États-Unis, dans l'Indiana, il tue sa fille en voulant sensibiliser ses deux fils au danger des armes à feu.
Ça va peut-être marcher. Bah,
hein, je pense qu'ils sont super bien sensibilisés.
C'est ce qu'on appelle un bad buzz. Oh, c'est le titre joué. Du film d'Éric et Quentin qui sort en salle demain. On va aborder ce premier sujet avec vous puisqu'il est 17h24 à Paris et à Brou-sur-Chanteraine.
Ah oui,
n'est-ce pas ?
Je connais cette ville.
C'est la ville de Quentin.
Je suis né là-bas.
Voilà. Vous êtes fort.
Il y a un problème ? Il y a un problème ?
Non, on les embrasse. Premier sujet, avec l'OPA d'En Marche sur l'Assemblée et le non-cumul des mandats, 352 élus sont dégagés. Problème à Pôle emploi, les compétences d'apparatchik ne servent à rien.
Le grand chef du personnel l'a convoqué à midi. J'ai une mauvaise nouvelle, vous finissez vendredi. Une multinationale sait faire notre société. Vous êtes dépassés et du fait vous êtes remerciés. Il n'a plus d'espoir, plus d'espoir.
Plus d'espoir pour Benoît Hamon, Patrick Menucci, Aurélie Filippetti, Mariton, Jean-Christophe Cambanelli, Mathias Fekel. Et ça, c'est les plus connus. Hein. Il y en a 352. L'idée que tous ces élus vont devoir, pour la plupart, retrouver peut-être un vrai boulot dans le privé ou revenir fonctionnaire, ça vous a fait sourire aussi, Éric et Quentin.
Oui, on en a fait un sketch, ça recase, dernière, ouais. Avec une agence qui s'occupait de recaser les politiques et effectivement les députés qui n'étaient pas réélus. Bah, bonne chance à eux. Hein. Je pense que
une agence qui a beaucoup de taf en ce moment.
Ouais, en ce moment, ils sont débordés. Hein. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Comment ils vont faire, quoi?
Bah, ils sont 352 déjà. Est-ce qu'il y a 352 postes tout de suite comme ça dans
puis
la
on
semaine?
On est fin juin, hein, quand même. Ouais.
Bon, dire, ça leur fera les pieds. Voilà. Allez, hop, allez, hop. Bien fait.
Et vous, en tant que citoyen, ça vous fait marrer aussi, j'imagine?
Bah, ça nous fait marrer, puis c'est intéressant aussi un renouvellement. Je pense que, ouais, comme vous le disiez, il y a une vague qui fait que bah, ça bouscule un peu les habitudes.
Donc, en revanche, toutes ces femmes.
Non, mais c'est bien, même 40% de femmes à l'Assemblée. Non, mais c'est génial pour les habitudes, parce qu'il y a une réputation un peu sexiste de l'Assemblée. Ouais. Donc ça aussi, c'est bien, ça va faire bouger les lignes. Elles peuvent porter une robe sans se faire siffler, enfin on l'espère encore, dans l'Assemblée.
Ouais.
Quoi.
On espère.
Alors, il y a un chasseur de tête qui, dans l'opinion, explique que tous ces profils de députés qui quittent l'Assemblée ont une forte employabilité, c'est-à-dire qu'ils ont un réseau, ils savent négocier, ils ont une notoriété, donc on ne va pas trop s'en faire pour eux.
C'est oui, je pense qu'avec un ou deux coups de fil, ça peut se régler rapidement. Hein.
À la Cour des comptes, déjà, non, mais il y a plein d'endroits hein, où ils vont aller, je pense.
Bah c'est comme dans la saison d'House of Cards.
Ouais.
Je vais pas spoiler.
Ne spoil pas.
Et le président, bon. Ça ressemble un peu à ça. Voilà.
Alors il y a l'idée que ceux qui étaient fonctionnaires reviennent dans la fonction publique. Donc là, de façon assez naturelle, ils sont mis en disponibilité pendant leur CDD de 5 ans finalement. Et puis il y a ceux qui vont dans le privé ou retournent dans le privé. Et là, pour ça, il y a une allocation qui leur est donnée.
Petite allocation.
Ouais, petit qui est pas mal quand même. Hein. Alors, c'est-à-dire que la loi prévoit un complément de salaire pendant quelques mois pour les députés battus de moins de 60 ans, 5000 euros, puis c'est dégressif, mais ça commence quand même à 5000 euros. Puis ça,
petite pensée pour les étudiants et le pass Navigo qui va augmenter. Pensez à vous les gars, bon courage.
Et Mathias Fekl a été embauché dans un strip club.
Ah bon?
Ouais, ouais,
ah bah ça c'est une info.
Ouais. Ouais. Je sais pas si vous étiez au courant, mais il a été embauché dans le privé. Ouais.
Bravo. Écoutez, on ne savait pas. Et alors, une dernière question à ce sujet. Est-ce que vous guettez les premiers pas des néophytes à l'Assemblée?
Ah bah oui, c'est même, on attend de faire un sketch là-dessus, parce que ça va être drôle de découvrir leurs nouvelles habitudes par rapport aux anciens. On se demande s'ils vont être guidés par les anciens. Enfin, je crois qu'ils cherchent.
J'ai l'impression que c'est des stagiaires.
Ouais, mais je crois qu'ils cherchent par exemple des bureaux très vite avec un lit. Par exemple, il y a tous les bureaux de l'Assemblée n'ont pas un lit, d'après ce que j'ai lu. Donc, ouais, ça va être assez drôle. Il va y avoir une course.
La course au bureau, la course aux emplois. Ils vont encore se foutre sur la gueule, quoi. Il est 17h28 et à côté de vous, il y a André Manoukian pour un peu de musique, d'apaisement.
Il m'a caressé déjà le bras deux fois. Hein.
Ouais, c'est normal.
Alors, Élodie, je commence toujours avec une question. La différence entre l'homme et l'animal, c'est quoi? La différence principale?
Le langage.
Non, ça n'est pas le langage. Les singes ont un langage entre eux.
L'homme sait faire la cuisine.
Leur lexique aux singes est beaucoup plus restreint, mais par exemple, rien que les orang-outans, ils ont plus de vocabulaire que Donald Trump. Ça n'est pas la taille du cerveau non plus, ça n'est pas le larynx dont les animaux sont dépourvus, ni l'empathie. Les animaux développent l'empathie entre eux. Ce qui exclut du fait Donald Trump du règne animal. Peut-être est-il un champignon mexicain. Est-ce le sens de l'art qui distingue les hommes des animaux? Non, hier, je vous citais Gilles Deleuze, j'aime bien en parler plusieurs fois parce que après tout, la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Le chant des oiseaux, c'est de la musique. La marmotte qui se dresse pour guetter, c'est de la danse. Et le rat mort orange sur la tête de Donald Trump, c'est de l'art moderne. La seule chose sur laquelle s'accordent les anthropologues pour marquer la naissance de l'humanité, c'est le moment où ils enterrent leurs morts. La plus vieille sépulture, découverte à ce jour à 500 000 ans. C'est une grotte en Espagne, à Altamira, dans laquelle on a retrouvé des corps soigneusement installés les uns à côté des autres avec des objets ayant appartenu aux défunts. Cet acte d'enterrer ses morts, c'est l'extrait de naissance de l'humanité et c'est aussi le commencement de toutes les religions. Les premiers cultes naissent autour des ossements des anciens, on leur parle, on les invoque, on leur attribue même le pouvoir de nous aider. Et puisqu'on leur parle, il faut bien les localiser. Puisqu'ils sont pas là, c'est qu'ils sont dans un au-delà et pour toujours. C'est ainsi que naît la notion d'éternité de Dieu avec son cortège de prêtres qui vont prendre autorité puisqu'ils sont les seuls habilités à discuter avec l'au-delà. Mais revenons à nos réfugiés. Pour les pensées P-E-N-S-E-R, notre civilisation occidentale possède une palette de couleurs pas très étendue. Ça va du rose pâle au brun caca. À gauche, on dit on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. À force d'avoir dit ça, c'est peut-être pour ça qu'elle s'y retrouve dans la misère, la gauche. À droite, on dit on est chez nous ou halte à l'immigration sauvage. La définition de l'angoisse, c'est quoi? C'est de recevoir un stimuli négatif contre lequel on ne peut rien. Et voilà que grâce à l'hyperinformation, on en est submergé de stimuli négatifs. On nage même dans des océans d'angoisse, on se vautre dedans, on en boit, on en demande. Alors deux solutions, fuir, verrouiller ses réseaux sociaux en filtrant et en n'acceptant plus que les vidéos d'Éric et Quentin. Sauf que même eux, parfois, s'emparent de sujets graves. Pas vrai les gars?
Bon, on essaye, ouais.
Ben ouais. Alors deuxième solution, se retrousser les manches des cordes vocales à la manière d'Émilie Loiseau et de sa bande. Parce que tous ces réfugiés disparus dans la Méditerranée n'ont pas seulement perdu la vie, mais étant sans sépulture, ils ont perdu jusqu'au statut d'être humain. Sauf que si aujourd'hui, vous faites un petit bateau en papier, un origami, disent les Japonais, et si vous allez le poser pour les Parisiens sur le canal de l'Ourcq, vous ferez en sorte, avec ce petit geste enfantin, de les réintégrer dans la famille des hommes, dans laquelle ils ont eu déjà du mal de leur vivant. Alors, accordons-leur ça au moins, le temps de leur mort. Allez, vous qui êtes à Paris, vous allez sur le parvis de la Rotonde, c'est dans le 19e. Et en même temps, vous entendrez Vincent Delerme, Albin de la Simone, Nosfeld, Sanseverino, Gaël Faure, Renan Luce, Babix, L, JP Nataf, 80K, Tomate Pourquerie, Dominique A. Les autres, vous les soutenez sur le Facebook d'Émilie Loiseau, Fais ton bateau. Nous aussi, après tout, on est chez nous. Sauf que on est chez nous partout, du moins partout où il y a des hommes. Allez, on écoute Babix avec Archie Shep qui nous chante Omaya.
Omaya s'endort sous les mandes d'araignée. Omaya s'endort sous les mandes d'araignée. dans le vent brûlé. Là où poussaient les roses, là où poussaient les roses, au Maya se repose. Au Maya s'endort sous le mont d'araignée. Maya s'endort sous les mandariniers, dans les vents brûlés. Elle seule sait que bientôt repousseront les roses, repousseront.
C'est Babix et Archie Shep, Omaya.
Archie Shep, l'héritier de John Coltrane, qu'on va voir bientôt le 3 juillet à Vienne, où j'ai une vraie émission pour France Inter.
Et dès que cette émission est terminée à 18h, vous pouvez filer, si vous êtes parisien, au bord du canal de l'Ourcq, dans le 19e arrondissement, l'opération Fais ton bateau, faites un origami. On en espère 10 000 pour les 10 000 réfugiés qui ont péri en mer. Merci André Manoukian. Après ce sujet festif.
Ça plombe un peu.
Mais non, mais non, moi,
c'était
citoyen.
Bien. C'était beau, c'était beau. C'était élégant. Ça fait du bien.
Voilà. Évidemment, voilà.
Un peu d'élégance dans ce monde.
Vous savez, c'est un peu la douche écossaise de cette émission. On rigole, on
allez,
on
maintenant,
s'émeut,
on s'en lâche. Allez, on y va.
Parce qu'on est avec Eric et Quentin jusqu'à 18h. Youhou. Et le film Bad Buzz sort en salle demain. Avec vous, bien sûr, avec Marianne Chazelle, avec Paco et Fabien, avec Mathieu Delormeau, Fabien Le Goualec, Bérangère Krief, entre autres. Et à cette heure-ci, il y a Guillaume Meurice, oui, que vous connaissez peut-être de réputation.
Oh bah quand même, bah on l'entend le matin. Hein, puis il est venu chez Quotidien.
C'est vrai, je suis venu chez vous.
Bah alors, exact, exact. C'est le petit monde de médias, bien sûr. Bien sûr. Allez-y, oui. Guillaume.
Eh bah écoutez, à chaque élection, on ne sait pas ce qu'on gagne, mais on sait ce qu'on perd. Et moi, j'ai perdu du lourd, sans mauvais jeu de mots. Jacques Millard. Jacques Millard, c'était mon panthéon à lui tout seul. Au grand homme, mes chroniques reconnaissantes. Jacques Millard, si vous ne le connaissez pas encore, tapez son nom sur un moteur de recherche. La première occurrence, c'est souvent dérapage. Voilà. Même pour Rémi Julienne, c'est pas ça. C'est pour vous dire le niveau du gars. Alors je suis retourné ce matin une dernière fois à sa rencontre, à la rencontre de Jacques, parce qu'à défaut d'avoir fait un carton dans sa circonscription, il faisait les siens à l'Assemblée. Je m'attendais à trouver un homme abattu, mais en fait non. Comment il analyse sa défaite ?
Un, ce n'est pas ma défaite personnelle.
Ah bon ?
Deux, non, parce que j'ai le sentiment, ce n'est pas ma défaite, c'est la défaite, je dirais, d'une volonté de tout foutre par terre et de tout changer pour que rien ne change. Et donc aujourd'hui, je ne comprends
l'élection.
Pas ça. L'élection, c'est une bataille.
Oui, mais vous, là, pour l'instant, vous avez perdu.
Mais attendez.
C'est une défaite.
La messe n'est pas dite.
Ah, on si, a c'est fini, là.
Un instant. Vous voulez tirer des conclusions hâtives.
Non, mais sur cette élection-là.
Mais je vous l'ai dit, on a perdu une bataille, mais on n'a pas perdu la guerre.
Mais vous avez quand même perdu. Alors, vous reconnaissez quand même la défaite.
Non.
Ouais, c'est... C'est compliqué, hein, ça fait un quart de siècle qu'il est député, Jacques. Hein. C'est comme quand t'annonces à ta grand-mère qu'elle va changer de maison de retraite. C'est pas facile. Mais bon, moi, je suis là pour ça aussi, hein, une mission de service public au chevet des personnes âgées. Alors j'ai essayé de lui faire entendre raison.
Puisque vous savez qu'à Paris, il n'y a eu qu'une personne élue, dans les Yvelines, qu'une personne. Dans
votre circonscription, vous étiez contre quelqu'un.
Et la personne a gagné, a eu plus de voix que vous.
D'accord.
Voilà, c'est bon, on y est, on touche plus à rien. C'est bon, il y est, c'est bon. Voilà, il reste juste à faire la corrélation entre avoir plus de voix et gagner l'élection. Ce qui, dans le parti Les Républicains, ne va pas toujours de soi. Hein, Serge Dassault, si tu nous entends de là-haut. Non, il est mort ou pas? Non, on sait jamais, on sait plus. Bon, bref, Jacques a perdu contre Yaël Braun-Pivet de La République En Marche. 23 ans de moins que Jacques, et ça, ça l'agace.
Le jeunisme, qui est un concept fasciste, comme chacun sait. Donc, bien sûr, vous devriez le savoir, mais relisez un peu votre histoire. Ne faites pas l'étonné quand je vous parle de ce qui sont des vérités historiques. Donc, il est
le jeunisme à l'Assemblée nationale, c'est un concept fasciste.
C'est ce qu'avait développé Benito et tout est quanti.
Bien sûr. Benito, dans son fameux livre Les comparaisons hasardeuses, préface de Jacques Millard.
C'est une Benito. Guéno, mais plus.
Voilà. Ouais, je vous ai dit, c'est mon préféré, hein, donc je suis un petit peu triste. Alors, Jacques, il est coutumier des comparaisons hasardeuses, puisqu'il avait comparé l'homosexualité à la zoophilie. Hein, c'est-à-dire qu'il ne fait pas la différence entre Freddie Mercury et un Labrador. Ce qui peut poser des problèmes dans la vie, sexuellement, mais aussi musicalement, bien entendu. Jacques, il a eu également quelques phrases malheureuses sur les femmes. Il a dit « Je ne parle pas aux connes, ça les instruit. J'ai joui en lisant le portrait que vous avez fait de moi à une journaliste. Hein, » n'est-ce pas, Jacques ?
C'est absolument faux, j'adore les femmes. Mais simplement, ce qui manque le plus, vous savez, au mouvement féminin aujourd'hui, c'est l'humour.
Ah, ouais, vous voyez, on va encore vous accuser de sexisme.
Mais non, on va pas le dire. Moi, je reste un Gaulois, voilà.
Alors attention, Jacques, pas d'amalgame, on n'est pas certain que Vercingétorix faisait des blagues de cul. Si ça se trouve, le mec aurait détesté le spectacle de Bigard, on sait pas, on saura jamais. Attention, je le dis quand même, Jacques n'est pas tout à fait misogyne.
Le talent n'a pas de sexe. S'il y en a 250 qui ont du talent, je m'en féliciterai, mais on verra à l'œuvre.
Ah, mais pour vous qui aimez bien les femmes, il y en a 233 qui arrivent et vous partez, c'est pas de bol.
Ah oui, mais que voulez-vous ? La terre est grande.
Ah, serrez les biches, Jacques Millard va avoir du temps dans les années qui viennent. D'ailleurs, c'est pas 233 femmes qui rentrent à l'Assemblée, c'est 223. Hein, je me suis un petit peu enflammé. Mais bon, on a tellement l'habitude qu'il y ait autant de femmes à l'Assemblée qu'à une soirée FIFA chez Daesh. Je me suis laissé aller. Toute façon, il les verra pas, ces députés, parce qu'on se dit, il ira plus à l'Assemblée, Jacques. Mais en fait, si.
Parce que maintenant, garde à vous, jeune homme, je vais vous montrer la carte, c'est que je suis devenu membre honoraire du Parlement. Tenez-vous.
Voilà, ça donne droit à quoi, ça ?
Ah, ça donne à rentrer ici dans cette boutique et aller au restaurant, c'est déjà pas mal.
Ah oui, parce que vous croyez que vous avez fini avec les députés battus. Non, il va falloir encore raquer pour leurs indemnités de départ, le resto, la cantine. Ils vont tous devenir des putains d'assistés, des cancers de la société, comme dirait leur copain Vauquier. Alors moi, je proposerais volontiers qu'ils mettent leurs paroles en pratique et qu'on les foute au RSA contre des heures de bénévolat, mais ça n'engage que moi. En attendant, concluons avec une dernière question. Qu'est-ce qui va vous manquer le plus à l'Assemblée nationale ?
Mais je veux dire, j'aime mon pays. Je continue à suivre la politique française.
Mais c'est pas ma question.
Je n'ai aucun regret.
Qu'est-ce qui va vous manquer ici, quoi ?
C'est peut-être votre question, mais votre question, je m'en fous, je vous donne ma réponse.
Voilà, et c'est ça qui va me manquer à moi, chez Jacques, la décomplexion. En espérant, sans trop y croire, que la relève qui paraît moins violente dans les mots ne le sera pas tout autant dans les actes.
Guillaume Meurice, merci.
À votre service.
Vous le prendre en chroniqueur, Jacques Millard, non ? Sur France Inter, ça.
Vous êtes
bien, moi. Yann Barthès de ça.
On verra.
Non, mais c'est vrai que c'est intéressant. Ce midi, il y a un vrai renouvellement et c'est aussi pour les journalistes. Il va falloir qu'ils s'habituent à de nouvelles têtes. Ouais.
Et le pire, c'est pour les huissiers, parce que j'étais ce matin à l'Assemblée. Ah ouais. Et les huissiers sont avec le trombinoscope et ils ne savent pas différencier les stagiaires. C'est assez marrant en fait comme situation. Là.
Et vous êtes content, Guillaume, de retourner à l'Assemblée ?
Oui, on a plein de nouveaux jouets, comme on disait dans cette émission.
Mais oui, c'est chic. Oh, on va se poiler. Oh, on va se poiler. Yannick et Quentin aussi. Je rappelle aussi sur TMC, bien sûr, un quotidien présenté par Yann Barthès tous les jours à 19h20. Et puis surtout demain, votre film qui sort en salle. Vous êtes scénariste du film Bad Buzz, vous jouez dedans. Et il est réalisé par Stéphane Kazandjian.
Des salles climatisées, je le répète.
Justement, parlons-en de la climatisation, c'est un sujet important. Avant d'écouter tout à l'heure Isabelle Sorrente qui est avec nous aussi.
Climatisée, Isabelle Sorrente.
Depuis qu'on a un nouveau président, il fait très beau. Mais depuis qu'on a une nouvelle assemblée, il fait un petit peu trop chaud quand même. 51 départements sont en vigilance canicule, le reste du pays reste en état d'urgence, rassurez-vous quand même. Cette semaine permet de se poser donc cette question. A-t-on retenu les leçons de la canicule de 2003 ? En tout cas, on croule sous les messages de prévention.
Il fait chaud. Ainsi, il n'est pas rare de constater une dilatation des pores et d'épiderme de la peau qui entraîne automatiquement le phénomène désagréable de transpiration. Voici donc quelques conseils qui peuvent vous aider à lutter efficacement contre ces désagréments. Primo, choisissez plutôt une place à l'ombre. Secondo, si vous me passez l'expression, tombez la veste. Et enfin, tierso, s'il fait vraiment trop chaud, sortez.
Bonne route.
Un extrait de Faux Contact diffusé sur la RTBF il y a quelques années avec Manu Taureau, conseil venant de Belgique, hein, donc ouais. On est un peu moins sujet à la canicule, disons-nous.
Ça dépend.
Ça dépend. C'est vrai. Vous pensez, Eric et Quentin, qu'on a la France a tiré les leçons et les bonnes leçons de la canicule de 2013. Il y a des réflexes que vous avez développés.
Nous pas forcément, mais enfin il y a des réflexes, on va dire politiques. Hein, je pense qu'ils paniquent tous. On se rappelle.
Ouais, ils ont peur là, je pense.
C'est quoi, le ministre de la Santé qui l'avait fait en chemisette en disant vous en faites pas. Voilà, vous en faites pas. Il y a pas de souci. Je pense que là la leçon est bonne hein, pour eux. Donc je pense qu'ils vont faire hyper attention à ça.
Il doit y avoir un petit affolement dans les maisons de retraite quand même.
Vous n'avez pas appelé vos grands-mères pour leur dire attention.
Ah, merci pour la boulette.
Non, je n'ai pas appelé le cimetière, Alex. Voilà, bonne journée.
Merci. C'est une mauvaise ambiance.
Mais effectivement, alors vous avez des souvenirs donc de 2003 parce que vous disiez on se rappelle du ministre de la Santé, de Chirac au Canada, etc. Oui, quelles sont les images qui vous reviennent?
Moi, je dis c'est la chemisette. Comment il s'appelle le ministre de la Santé?
Matéi, je crois. Je ne sais plus son prénom, mais barbecue derrière en fond et il était sur son lieu de vacances. Il disait non, c'est bon, tout va bien.
Où est-il d'ailleurs?
Jean-François Matéi, non?
Peut-être bien.
Je ferai une petite recherche.
Un Jean quelque chose. C'était un bad buzz à l'époque, mais ça ne portait pas ce nom.
Il n'y avait pas Twitter, pas Facebook.
Et le fait qu'on croule sous les messages de prévention.
Ah ouais, maintenant ils ont tellement peur qu'on les accuse de ne pas avoir agi que.
Vous aussi, vous recevez des mails, parce qu'à Radio France, on reçoit des mails très détaillés avec les milliards de choses à faire. Si on suit tout ce qui est dit dans le mail de prévention, on n'a plus le temps de travailler.
Non, moi, j'ai pas de mail en revanche.
Ah bon?
Non, j'ai arrêté. Il y a deux ans, je trouve ça chiant.
Alors, si vous voulez, petite anecdote, made in maison de la radio.
Ah oui,
il y a une passerelle qui a été construite récemment, parce que cette maison est toujours en rénovation. Et on s'est rendu compte qu'il faisait 79 degrés dans la passerelle. Donc, les pompiers l'ont fermée parce que ça devenait dangereux.
Ouais, les gens tombaient dedans.
Oui, c'est ça.
Ils n'arrivaient pas au bout, en fait. C'était une épreuve de Koh-Lanta.
Exactement. On aura tout eu, les incendies.
Ça fait longtemps que c'est en rénovation, quand même.
Un petit peu, oui, c'est vrai. Donc, parlons un petit peu de ces.
On a l'info. Donc, c'était un médecin. Donc, c'était vraiment quelqu'un qui avait chevillé au corps. Et il est membre titulaire de l'Académie nationale de médecine depuis 2000. Donc voilà, c'est quelqu'un qui...
Et son prénom?
C'est Jean-François.
C'est
Jean-François Matéi. Mais on est bon.
Il doit avoir plein de conseils à donner maintenant. Il a du français, je pense.
Et donc, reparlons peut-être des salles climatisées. C'est important de se réfugier.
Dans les salles de cinéma. Notamment pour Bad Buzz.
On va rigoler, on rigole, mais au frais.
Non, on a demandé expressément que les salles où il y a le film soient climatisées. Alors les autres films, on ne sait pas et on n'est pas certain, on tient à vous le dire.
Vous êtes un des rares films à être climatisé.
Tout à fait.
Il faut le dire.
Non, on a demandé, c'est dans les contrats. Je me souviens, il y a deux mois, on avait bien regardé la météo. Notre film, oui, les autres ont pas.
Et un des rares films où on va rigoler aussi. Voilà, c'est dit.
Et je crois qu'on se rafraîchit plus si on paye plein tarif. J'ai lu ça dans le dossier de presse.
Exactement. Si
tu vas avec toute ta famille, bah là, ça y est.
J'ai lu ça, oui.
C'est vrai. Alors, sinon, blague à part, c'est vrai que les personnes vulnérables commencent à avoir le réflexe de se réfugier dans les centres commerciaux, dans les supermarchés.
Sinon, il y a le hall de Radio France aussi. C'est bon. Vous pouvez venir en bas.
On est bien là. On a de la chance quand même. Vous êtes bien, Eric et Quentin.
Bonne
température, nickel. Bon, bah, parfait. Dédé, ça va?
La
moustache transpire pas trop.
Ça va. À Paris, si vous avez un peu chaud, vous pouvez aller au canal de Lourdes pour rafraîchir, jeter des origami dans le coin
et faire un bateau.
Exactement.
Effectivement, et aller voir les concerts et les films aussi au MK2 hein, qui sont diffusés. C'est en ce moment. Mais allez-y dans 15 minutes. Isabelle. Non, parce que d'abord, il y a Isabelle Sorrent.
Il y a les conseils à écouter avant.
Effectivement. Oui, alors, en fait, oui, la trottinette, ça va commencer autrement. En fait, il y avait une jeune femme triste, en fait, hier sur le quai du métro. Il était à peu près 6h30. Elle portait une veste et un pantalon gris. Et malgré la chaleur, la jeune femme triste n'avait pas ôté sa veste. En fait, elle était trop absorbée dans la contemplation de l'affiche pour la saison 5 de Orange is the New Black. Alors, vous savez, Orange is the New Black, c'est la série mythique de Netflix. Elle se passe dans un pénitencier pour femmes. Les héroïnes sont dures, tragiques et drôles. Et la jeune femme dans le métro, qui n'a pas enlevé sa veste malgré la chaleur, regarde donc l'affiche de Orange is the New Black d'un air mélancolique. Elle a l'air fatiguée. Elle porte donc une trottinette sur le dos.
C'était NKM, non?
Je sais pas. En tout cas, elle fait partie de ces, je sais pas combien ils sont, de ces hommes et de ces femmes de plus de 30 ans qui se rendent au travail en trottinette. Et elle a dû se dire qu'il faisait trop chaud pour rentrer chez elle en trottinette et que c'était mieux de prendre le métro. Ah. Elle est peut-être tombée sur un conseil de France Info. C'est assez raisonnable. Et vous aurez remarqué que les gens qui font de la trottinette sont raisonnables. En général.
Non.
Eh bien, moi, je l'ai remarqué, Guillaume, parce que faire de la trottinette pour se rendre au travail, ça leur permet de faire du sport tout en s'amusant. C'est une réflexion sur le gain de temps, sur la gestion du temps. Et vu de loin, la trottinette a l'air d'une activité sympathique, hein, un peu comme la marche à pied, la part d'enfance en plus. Mais attention, ce n'est pas n'importe quelle enfance. Ce n'est pas l'enfance qui danse, ce n'est pas l'enfance qui mord, c'est l'enfance qui trottine. La trottinette, c'est la part d'originalité autorisée pour rester productif. Alors, est-ce qu'on trottine vers la liberté, par exemple ?
T'as pris un coup de chaud aussi, non ?
Non, je me pose des questions fondamentales. Est-ce qu'on trottine vers la liberté, Alex ? Moi, je ne crois pas. On trottine comme un enfant sage, on trottine comme les souris dans les comptines. La trottinette fait penser à la petite musique des ascenseurs, au surgelé picard, à la température idéale de 20 degrés, été comme hiver, et tant pis pour le reste du monde, hors zone climatisée. Si on faisait une topologie de la trottinette, on noterait pas mal d'endroits où la trottinette ne passe pas. Il est déconseillé de traîner en trottinette à 3h du matin, par exemple. D'abord parce qu'on ne traîne pas, puisqu'on trottine. Et puis, en cas de danger, on ne fuit pas assez vite. On ne fait pas de braquage en trottinette, on ne fait pas de fugue en trottinette. Même avec une trottinette à moteur, on n'irait pas bien loin. On ne prend pas le périphérique en trottinette. Et on ne peut pas gravir des côtes ou dévaler des pentes. Bref, la trottinette, elle est faite pour les quartiers résidentiels et pour les quartiers de bureaux, et encore lorsque le terrain est plat. En dehors de ces océans de platitude, par exemple dans les escaliers, il faut la porter sur son dos comme on porte sa croix. Pour ce qui est de l'effort physique, la trottinette a le sens de la mesure. À moins qu'il fasse très chaud comme cette semaine, on peut trottiner jusqu'au travail sans être obligé de se changer en arrivant. Ce n'est pas comme le vélo, ce n'est pas comme le jogging. On trottine. On ne dépense pas beaucoup de calories, juste assez pour avoir bonne conscience, pas assez pour faire couler le maquillage ou avoir le visage rouge. C'est la glisse sans la vague, c'est le surf sans la chute, c'est l'ivresse contenue de la glisse en terrain plat sous l'œil bienveillant des caméras de surveillance. Nous ne vivons pas dans un monde orwellien, nous vivons dans un monde d'infantilisation générale. Entre les claviers des téléphones qui nous proposent des émojis chaque fois qu'on tape un nom d'animal, comme si les mots aussi étaient en voie de disparition. Entre les smileys qui se multiplient proportionnellement à la peur de déplaire. Entre l'évaluation des services par les clients et l'évaluation des clients par les services, les enfants adultes ferment leur gueule et trottinent pour éviter les ennuis. Les enfants adultes sont sages comme des images, alors ça tombe bien hein, parce qu'il n'y a plus que ça des images. Freud a dit que l'enfer était le monde livré aux enfants de 5 ans. Il n'a pas précisé si les enfants dans des corps d'adultes faisaient partie du tableau. Je ne sais pas si la jeune femme du métro va regarder Orange is the New Black. Je ne vais pas me lancer dans une critique de la série. Il y a des choses géniales là-dedans et il y a aussi des clichés. Ce que j'aime dans cette série, c'est qu'on y voit des adultes. Des femmes qui n'ont pas des visages d'adolescentes, des gens qui sont face à des choix tragiques. Des gens qui ne sont pas parfaits, bref, des adultes. Ce que je trouve dommage, c'est que pour une fois qu'on ose représenter des adultes, on a besoin de les imaginer criminels. On a besoin de les mettre en prison, histoire de continuer à trottiner en paix.
Merci Isabelle Sorante.
Prends bien ça dans la gueule, la trottinette.
Ouais, j'aime pas ça.
Moi, j'ai pas compris, vous aimez ou vous aimez pas la trottinette?
Je la sens mauvaise ambiance avec la trottinette.
Je suis sûre que tu trottines, en fait.
Non, et bah même pas.
Elle la regarde avec elle.
Pourquoi les cadres, ils sont toujours en trottinette?
La infantilisation, infantilisation.
Ils mangent des
salades César. Et c'est la petite part d'originalité qui est admise pour être productif.
Avec un sac à dos, souvent. Ils sont cadres, ils ont un costume gris et un sac à dos, ils sont en trottinette.
Ah ouais, ils sont nuls.
Donc on assiste à une infantilisation de
général, je pense, oui, je pense qu'il y a un lien entre les trottinettes et le
la trottinette est fasciste, enfin, on peut oser le mot,
comme le jeunisme, je pense qu'il faut en parler.
Et après, ces gens-là jouent au football dans les couloirs comme Guillaume Meurice, et puis voilà.
Voilà, puis c'est ça.
Bravo Guillaume,
bravo aux enfants de 5 ans.
On espère que vous croisiez quelqu'un en hoverboard d'ici la semaine prochaine pour nous analyser les problèmes.
C'est plus sympathique, oui.
Merci Isabelle Sorante pour ce coup de gueule tout en poésie. On va aborder ce dernier sujet avec Éric et Quentin qui sont avec nous. À quelle fréquence faut-il changer de serviette de bain? Pardon, mais le journal Ouest France nous met en garde ce matin. Souvent, la serviette de bain a l'air propre. Mais est-ce vraiment le cas? Interroge le quotidien. À cause de l'humidité et de la chaleur de la salle de bain, docteur, que trouve-t-on dans les fibres? Qu'est-ce qu'on trouve dans les fibres de la serviette de bain? Alors, écoutez les conseils.
Petit furoncle ou gros abcès, pellicule et crotte de nez, vomissement et diarrhée, mauvaise haleine, ongles incarnés, crise de foie, méningite ou dent gâtée, abadie, si tout nausée,
imaginer
chanter. Rétention d'eau, obésité, cancer, infarctus, cholestérol, appendicite, mal au dos, fistule, dépression. Le docteur G répond à vos questions.
Nous n'avons connu que l'herpès, c'est Philippe Geluck.
Ah,
à l'époque, à la radio, sur la RTBF, il faisait le docteur G répond à vos questions, et là, c'est la docteur G song. Voilà, des références culturelles.
En Belgique, ça fait beaucoup rire.
Là, vous vous rendez compte.
Là, on a rigolé, mais on a éteint les micros avant.
Voilà, alors, donc, cette première question, Eric et Quentin, à quelle fréquence changez-vous de serviette de bain? C'est-à-dire, à quel moment vous vous dites...
Vous n'avez pas vu celle-là, cette question.
Bonjour, Élise Lucet, Cache Investigation.
Donnez-moi votre réponse immédiatement.
Enfin, deux fois par jour, Charlie.
À quel moment vous vous dites, là, il faut que je change de serviette de bain? Parce que la plupart des gens, c'est l'odeur.
Je vous l'ai déjà dit, c'est que je n'utilise pas de serviette de bain. Je tourne sur moi-même pendant un petit moment et
je me sèche au sèche-cheveux. Donc ça va plus vite.
Tout ça pour contourner la question. Hein.
Ouais.
C'est vrai.
Non, parce qu'on réfléchit, là, je suis en train de dire, putain, ça fait un moment quand même.
Non, parce qu'il y a une question, il y a une question entre hygiénisme et écologie. Si, alors je vous dis, parce que par exemple, moi je me suis renseignée, hein, si la serviette sèche bien et qu'elle est aérée, on peut la laver tous les deux ou trois utilisations, nous dit-on.
Oui, mais la laver, c'est pas en changer.
Est-ce la changer ça, j'avais pas prévu.
Ah, bah voilà.
Est-ce que Kant dit quelque chose à ce sujet ou pas?
Alors, Kant, à propos du bout.
En revanche, si elle reste humide dans la salle de bain entre deux douches, faut en changer systématiquement pour éliminer un maximum de bactéries.
C'est dément.
Mais alors, qu'est-ce qu'on fait entre l'hygiénisme et l'écologie? Parce que laver tout le temps les serviettes de bain et tout ça, c'est.
Et si on l'étend dans sa cuisine, sur le four, par exemple?
Ça, c'est sec.
Ça, c'est pour la faire sécher.
Moi, j'avais une prof de science qui nous disait, on ne conseillera jamais aux enfants, pour les immuniser, qu'ils frottent leur tartine contre les murs avant de la manger. Enfin, histoire de se faire, de se mitridatiser. Est-ce qu'on ne vit pas non plus dans une hyper-société?
La question, c'est, le français moyen, il change combien de fois? Est-ce qu'on a un chiffre?
Je viens de vous le dire.
Ça, c'est les conseils que vous donnez.
Alors, le français moyen,
il est l'écart avec le
français. Non, il dit que c'est à l'odeur. Quand le ça sent l'humidité.
C'est pas dans la merde, moi je suis à deux
smics. Ah, d'accord.
Ah oui, c'est
pour les, et pour les lessives, c'est pareil, pour les vêtements?
Alors ça, c'est un autre sujet.
Je voulais vous en parler depuis le début de l'émission.
Il faut attendre que West France sorte un sujet là-dessus. Parce que sinon, on s'en sortira pas. Bon, sinon, la presse est pleine d'inventivité, non?
Mais qu'est-ce qu'ils font, West France?
C'est intéressant, la preuve, c'est qu'on en parle depuis tout à l'heure.
Qu'est-ce qu'ils font, West France?
C'est le genre d'article, quand vous tombez dessus, ça vous donne des envies de sketch.
Ouais, mais...
Oui, mais comme c'est déjà rigolo.
Voilà. Non, mais c'est vrai, on évite de prendre des choses qui sont déjà drôles. On prend des sujets plus sérieux. C'est une formation qu'on a eue.
C'est un peu le même fonctionnement que sur la trottinette. Je trouve ça super de faire un truc là-dessus. Voilà. Je suis juge aujourd'hui. Voilà.
Juge de l'humour.
Voilà, voilà.
C'est vrai qu'on essaie de prendre des sujets sérieux parce que c'est trop facile de prendre des.
Sinon, moi je me suis renseigné. Il existe un sèche-serviette doté de haut-parleurs pour écouter de la musique en même temps dans la salle de bain.
C'est
pour
ça que j'ai travaillé le sujet.
Bon, Eric et Quentin, on a un sketch. Parce que vous avez pas
trouvé le sketch. Le sketch.
Quentin. Et on s'est dit, mais comment ça se prépare une bonne émission de quotidien?
Ah oui, on le savait.
Ah ben bien sûr.
Honnêtement, est-ce qu'on va être à la hauteur?
Eric, vous êtes Yann Barthez, Quentin, vous êtes Martin Veil, Charline et moi, on est Eric et Quentin,
d'accord,
et Guillaume et Thibaut Clément. Bien. Voilà comment ça se passe, une bonne émission de
donc,
quotidien.
Je suis Martin Veil, très bien.
Yann, on a un super sketch à te proposer.
Eh merde, encore Eric et Quentin.
Bon, ils te plaisent pas nos sketchs?
C'est pas ça, mais là, c'est la fin de la saison et...
Et il aime pas notre duo.
C'est pas vrai, il y en a un des deux que je trouve vraiment très bon.
Salut les gars, je vais où?
Martin Veil.
Ah, Martin Veil. Eh bien, demain, tu pars au Timor Oriental, Martin.
Oh, non, mais je reviens d'une semaine au Sud-Soudan.
Tu voudrais aller où, alors?
Je sais pas, Clermont-Ferrand, Mont-Soleil-Mine ou Versailles, c'est joli.
Le Timor.
Mais j'ai plus de place pour le tampon dans mon passeport.
T'inquiète, pas besoin de passeport, tu pars avec un braconnier malgache, vous passerez de nuit en Zodiac.
Nous, un sketch sur le Timor, justement.
Non.
Il aime plus nos sketchs.
Et moi, je vais où? Parce que je suis prêt, j'ai bien repassé ma chemise, je suis prêt.
Alors, toi, Hugo, tu vas suivre le nouveau sous-secrétaire d'État en charge du tricot.
Non, mais je le connais pas.
Ah, bah, moi non plus.
Ouais, mais je lui pose des questions sur le contenu de son travail.
Ah, bah, surtout pas, on n'est pas au JT de TF1, t'essayes juste de lui faire dire une connerie.
Ok, c'est où?
C'est à Marseille.
Marseille, mais pourquoi j'irais pas, moi?
Toi, c'est les zones de guerre, on t'a dit.
Oh.
Justement,
Marseille.
Elle était pas en plus haut.
Ensuite, j'ai pas mis en plus haut.
Mais tu vas pas nous croire.
On a un super sketch sur Marseille.
Ouais, on a déjà toutes les perruques et tous les costumes.
Mais c'est quoi le pitch?
C'est BHL qui emmène un photographe de Paris Match sur un terrain de conflit.
Ils arrivent à Marseille.
Et puis là, il y a Jean-Claude Godin qui arrive.
Main dans la main avec Patrick Mennucci.
Et on appelle ça Brokeback Marseille.
C'est nul.
Ouais, c'est
non,
nul.
Non, c'est bien.
Oui, si, on est exigeant en matière de sketch. On n'est pas sur France Inter à 17h. Bravo.
Il était bon, ce
sketch. Mais oui. Mais au moins,
un sketch à quatre voix.
Bah voilà.
Ouais.
Vous êtes encore là, les auditeurs?
Il y a quelqu'un?
Il y a quelqu'un qui a dit c'est Erasmus entre TMC et France Inter que vous veniez nous voir.
Mais nous, en vrai, on est content de venir parce qu'on fait un peu le même taf.
Voilà. Ouais. C'est vrai. Non, c'est vrai, on vous regarde,
ça fait plaisir.
Et parfois, c'est chiant parce que, alors, on va vous flatter, mais parfois, vous faites des sketchs qu'on aurait aimé faire et qu'on voit la veille et qu'on voudrait faire le lendemain.
Nous,
c'est
on fait bien chier quand c'est l'inverse aussi. Ouais.
Mais nous, souvent, on va se copier, les gars.
Souvent, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vous copie.
Et on rappelle aux éditeurs qu'ils peuvent vous voir, bien sûr, dans Quotidien ce soir. D'ailleurs, il vous sera consacré un petit peu ce Quotidien ce soir. Allez voir Éric et Quentin sur TMC, chez Yann Barthès. Ouais. Et surtout le film Bad Buzz de Stéphane Kazandjian, dont vous êtes les scénaristes et les acteurs. Hein. Éric Quentin, Bérangère Krief aussi, Marianne Chazelle, Paco Fabian, Fabien Le Goualec hein, et Razan Jamal. Merci à tous,
c'est
merci
rigolo,
les amis.
Vous venez,
vous verrez. Oui, c'est vrai que c'est rigolo.
Allez, on se retrouve demain. Le mot de la fin au député viré de l'Assemblée qui se retrouve sur le marché de l'emploi.
Fini la petite auto. Fini les vacances au crottoir. Fini le tiercé.